Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, la thématique que j'avais d'ailleurs annoncée la semaine dernière est celle du journalisme quasiment dans tous ses états, en tout cas en bande dessinée. Ce qui nous a amené à parler de ce sujet, c'est peut-être parce qu'il est dans l'actualité et qu'aujourd'hui, les journalistes globalement sont fort mal vus, que ce soit en France ou à travers le monde. On considère que ce qu'ils racontent n'est pas digne non seulement d'intérêt, mais ne mérite pas d'être cru. Dans la bande dessinée, il y a quand même toute une série d'enquêtes qui sont relayées en particulier à travers une revue qui s'appelle La Revue Dessinée. Ça fait un certain temps qu'on n'en avait pas parlé. Vraiment, c'est pas un ovni au milieu de la bande dessinée, mais c'est une revue qui a fait tout à fait sa place, Thierry, au fil du temps.
On en a parlé, on en parle assez régulièrement parce que certaines prépublications dans La Revue Dessinée paraissent sous forme de livres chez Futuropolis. Que la revue dessinée est l'exemple. Alors, il y a un autre exemple, c'est Topo, qui est une revue comparable, mais destinée à un public plus adolescent. La revue dessinée est un exemple de ce qu'on appelle le MOOC, un genre nouveau à mi-chemin entre le magazine et book, magazine et livre. C'est l'exemple d'une autre façon de commenter l'actualité, la société, en s'appuyant sur le dessin. Ce dont nous allons parler, qui est une sorte de de compilation, l'occasion de démontrer ce qu'est un vrai travail de journaliste. Il est tellement attaqué de nos jours, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de journalistes tués dans le monde, que les journalistes, quand il y a des manifestations un peu violentes, ils sont pris à partie. Journaliste, c'est un métier qui n'a jamais été facile. On le comprendra pendant la chronique, dans la deuxième partie de la chronique, parce que c'est une chronique où nous allons parler du journalisme dans tous ses états. Ce qui nous a motivés à parler de ce volume, de ce hors-série de la revue dessinée, c'est qu'il est placé sous la bannière de Mediapart. Mediapart, c'est un collectif de journalistes dont on entend souvent, très souvent parler, dont les représentants emblématiques sont souvent attaqués dans d'autres médias ou par des hommes politiques.
C'est un repère de gauchiste, en fait, Thierry.
Voilà, on pourrait caricaturer en disant ça. Comme vous le disiez, notre rubrique n'est pas une rubrique politique. On n'a pas à prendre position, on n'a pas à partager nos opinions politiques. Mais on tient à montrer que le métier de journaliste fait sérieusement, quand des journalistes qui sont indépendants, qui ne sont pas vendus à un groupe de presse ou à des gros financiers, c'est une façon de préserver l'intelligence au milieu de cet océan de bêtises qui nous assaille avec les fake news, avec les complots divers et variés, avec, comme disait le Père Ubu, tout ce qui est le décervelage.
C'est bien choisi comme mot.
Voilà, et c'est ce qu'on voit démontré dans cet ouvrage qui traite de sujets très divers, avec à chaque fois un débriefing, une longue interview du journaliste qui a mené l'enquête, qui explique quelles sont ses méthodes et pourquoi on peut prendre au sérieux et à crédit ce qu'il dit, parce qu'il a enquêté de cette façon-là, et c'est l'exact contraire, contre-pied de tout ce qui est fake news et pseudo-journalisme orienté et fausses informations pullulant sur les réseaux sociaux.
Alors cet album, qui est donc un recueil de différentes enquêtes, s'appelle « Les enquêtes de Mediapart en bande dessinée », il y en a 7, une autour du Covid, l'autre par rapport à un organisme qui s'appelait, parce que je crois qu'on peut mettre au passé, Avenir Lycéen, il est question de harcèlement, il est question de migrants, de corruption, d'économie ou encore de police. Ce sont des thèmes qui sont relativement chers à la revue dessinée, ces thèmes-là, et à Mediapart aussi d'ailleurs.
C'est des thèmes phares, c'est l'expression je crois qu'utilise l'éditeur, des thèmes phares qui sont choisis parmi des publications faites tout au long de l'année. C'est des thèmes qui ont vocation à revenir régulièrement, traités d'une façon ou d'une autre par les médias, par le médium. Alors, c'est ma marotte, c'est de dire médium, parce qu'on dit le média, mais c'est une faute de latin. J'allais dire une faute de français, c'est une faute de latin.
C'est quelque chose qui permet de transmettre une information.
Une information fiable, vérifiée et sérieuse. C'est une opération de salut public, une opération de vulgarisation, au meilleur sens du terme. Et c'est une occasion de montrer, alors nous la soutenons parce que nous sommes des amateurs de bande dessinée, des amateurs de l'image et des amateurs du récit en image, l'occasion de montrer que l'image peut avoir un impact, renforcer l'impact d'un récit, et qu'il soit un récit de fiction ou un récit journalistique.
Alors, le deuxième album dont nous allons parler, Thierry, nous ramènera là en arrière, par contre. Hein, on n'est plus dans l'actualité, mais on est à une époque où, évidemment, beaucoup de choses sont concentrées. 1943, nous sommes en Belgique. Quand on parle de Belgique, on pense forcément bande dessinée aussi. Et il est question là d'un journal, un journal qui s'appelle Le Soir. Ce journal, d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait une bande dessinée à l'intérieur. Ici, eh bien, il va être question du Fossoir. C'est une bande dessinée de Denis Lapierre et Daniel Couvreur au scénario et de Christian Durieux au dessin. Pourquoi le Fossoir, Thierry ?
Le Soir, quotidien emblématique de la Belgique. L'équivalent aujourd'hui, ce serait Le Monde. En termes de prestige et de diffusion, c'était le quotidien phare de la presse belge. Ce soir, il a été, comme disent les Belges, entre guillemets, volé par l'occupant, par les collaborateurs, ou embauché. Enfin, pas embauché, embauché, au sens de Bosch.
Avec un O, oui.
C'est-à-dire que quand la Belgique a été occupée par les nazis, la rédaction a été débarquée sans ménagement et les journalistes ont été remplacés par des collaborateurs qui brossaient dans le sens du poil l'occupant et les autorités complices. C'est quelque chose d'intolérable pour les résistants et les résistants journalistes. Et ils vont imaginer une histoire extraordinaire, hein, d'une audace folle. C'est de produire un faux numéro du Soir pour le 11 novembre, puisque le 11 novembre est interdit évidemment, un numéro qui serait diffusé comme Le Soir volé en kiosque et puis acheté dans différents points de diffusion, et qui serait un organisme, un journal libéré où on parlerait de l'occupant, où on parlerait de l'actualité, on dirait la vérité sur ce qui se passe, c'est-à-dire que les défaites des nazis, le tournant de la guerre commence à être perceptible. Esprit belge, esprit bruxellois même, on se moquerait de tous ces gens.
On détournerait toute une série d'événements, d'annonces, etc. Oui.
Alors c'est un projet fou, parce qu'une fois qu'on a dit on va le faire, mais comment le fait-on ? Donc il faut recruter des plumes, il faut prendre toutes les précautions possibles, il faut trouver un imprimeur, il faut trouver du papier, il faut trouver moyen de court-circuiter l'édition du Soir qui devrait être distribuée ce jour-là. Donc empêcher la diffusion du faux Soir et remplacer dans les points de vente le Soir parodique, entre guillemets. C'est une opération d'une audace phénoménale. Alors, j'avais jamais eu vent de ce coup d'audace. On peut se permettre de révéler que l'issue en sera tragique. Pour beaucoup des protagonistes, ce sera l'arrestation, la torture, la déportation, la mort, fusillés ou morts dans des camps de concentration. On révélera pas le grain de sable qui a enrayé cette machine, parce qu'ils ont bien failli passer entre les mailles du filet, ne jamais être découverts. En tout cas, c'est une histoire magnifique qui montre que le journalisme, c'est une forme de résistance et que l'humour peut être une arme de destruction massive.
À l'époque, il y a quand même eu 50 000 exemplaires de distribués.
C'est gigantesque, hein. Oui.
Ça paraît incroyable dans le contexte. On a l'impression que c'est un acte de résistance presque léger, dans le sens où pourquoi cet acte-là, plutôt que d'autres qui pourraient paraître plus engagés encore, plus porteurs de sens, mais en fait, c'est complètement porteur de sens ce qui va se passer là, parce que ça va générer dans le cœur, dans l'esprit des Bruxellois, mais des Belges en général, un élan, quelque part, que ce soir volé, qui devient un faux soir.
Il faut imaginer quel était l'impact de la presse écrite à l'époque, en Belgique ou en France. Et puis le symbole que représentait le soir dans le cœur des Belges. Alors on va dire qu'il n'y a pas d'acte de résistance mineur ou majeur, s'il y en a des qui sont majeurs. C'est une opération tellement chargée de symboles, de force, et puis d'une force émotionnelle, comme vous le disiez, et puis l'humour. Cette composante à laquelle on ne songerait pas en parlant d'acte de résistance. Le talent, l'humour, bravo messieurs les journalistes.
Oui, un acte de bravoure, je crois pas qu'on ait utilisé encore l'expression jusqu'à présent. Un tout petit mot sur le dessin de cet album, Le Fossoir, dessiné donc par Christian Durieux. Un côté très très doux à ce dessin. Je crois que vous utilisiez, Thierry, quand on préparait l'émission, l'expression lunaire.
Oui, parce que je pensais à une série de Durieux sur un scénario de Gibra qu'on avait adoré tous les deux, qui s'appelle Les gens honnêtes, ou qui mettait en scène un personnage un peu décalé, un peu justement lunaire. On retrouve cette extrême douceur dans le dessin, les ambiances qui sont contenues dans cet album, parce que l'environnement est sinistre, c'est une menace permanente. Il y a beaucoup de scènes dans des intérieurs mal éclairés, parce qu'il n'y a pas de lumière, il y a le blackout. On se cache, on cherche des endroits discrets. Il y a toute une atmosphère qui est à suggérer, qui l'est admirablement par le dessin, puis la restitution des ambiances auxquelles parvient Durieux. Et oui, une douceur paradoxale dans cet environnement d'une dureté affolante, si on y pense, l'occupation nazie, qu'est-ce qu'il y a de pire ? Cette douceur qui donne une fluidité, un élan narratif assez remarquable.
Il faut préciser que dans cet album, Le Fossoir, il y a un exemplaire du Fossoir, enfin un facsimilé.
Au début de l'album, enfin pas seulement au début, mais surtout au début, on voit l'enquête qui est menée par ceux qui vont réaliser le livre, par ceux qui vont enquêter sur cet acte de résistance étonnant. Des Fossoirs, on en a une reproduction qui est donnée dans le livre dont on parle aujourd'hui. Il est difficile d'en trouver sur le marché de la collection, surtout à des prix raisonnables.
Voilà, c'est ça.
C'est un trésor.
Thierry, est-ce que cet album est paru chez votre éditeur préféré ?
Hasard ou coïncidence ? Oui, Futuropolis.
Ben voilà, c'est dit. Donc on vous conseille la lecture des enquêtes de Mediapart en bande dessinée. Si vous souhaitez relier un véritable travail journalistique à la bande dessinée, eh bien vous avez trouvé ce que vous avez à lire. Et puis ce fameux Fossoir, paru aux éditions Futuropolis avec La Pierre Couvreur et Durieux. C'est un récit qui se lit... j'ai envie de dire, tellement facilement, c'est tellement fluide, et en même temps, quand on mesure toute la portée de cette histoire, ça paraît incroyable. Merci beaucoup Thierry d'avoir partagé avec nous tout cela, et puis on se retrouvera la semaine prochaine encore pour partager des bandes dessinées, mais on sera peut-être un petit peu plus léger cette fois-ci. À bientôt.